Prenons nos Bibles et regardons dans Ésaïe chapitre 9 de nouveau. Et je voudrais revenir sur le passage que nous avons vu la dernière fois, mais cette fois-ci toucher seulement les versets 6 et 7. Surtout 5 et 6. Ésaïe 9, les versets 5 et 6. Et je voudrais vous parler de la gloire du Christ. Ici, nous avons une prophétie concernant le Messie. Le mot Messie, c'est un mot en hébreu qui signifie le Christ ou bien le oint. Et au milieu de toutes ces menaces de Dieu contre Israël au temps d'Ésaïe, nous avons ici une promesse de Dieu qu'il allait préserver le peuple d'Israël malgré sa rébellion, malgré son idolâtrie, préserver un reste, et de ce reste devait venir son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, cette prophétie est annoncée ici dans les versets 5 et 6, où c'est écrit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. » Et là, au lieu de mettre une virgule là, puisqu'il n'y avait pas de ponctuation dans l'original, mais toutes ces appellations sont données en groupe de deux, en paire. Donc, il faut lire ça, on l'appellera admirable conseiller. Et puis, virgule, Dieu puissant. Troisièmement, Père éternel. Quatrièmement, Prince de la paix. Et puis, verset 6, donné à l'empire de l'accroissement. Quel empire? C'est le royaume spirituel que Christ devait venir établir. Et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle. Et notons comment Dieu est appelé ici l'Éternel, le zèle de l'Éternel des armées. Donc voilà un passage qui nous révèle clairement la gloire du Christ. Et nous avons deux parties dans ce message. Ça fait un très bon passage pour prêcher l'Évangile. Premièrement, les caractéristiques de la personne de Christ. Et puis, deuxièmement, les caractéristiques de son œuvre qu'il devait venir et accomplir. Mais tout devait débuter par une naissance. C'est pourquoi nous lisons « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné ». Très simplement, Ésaïe a utilisé l'outil littéraire hébreu de la répétition pour souligner ce point. Premièrement, l'enfant est né. Cela représente l'humanité du Seigneur Jésus-Christ. Il devait venir en chair pour représenter des pécheurs que Dieu le Père lui avait donné depuis l'éternité. Il fallait un corps. Il fallait qu'il vienne comme les hommes qu'il est venu sauver. Donc, son humanité représentée dans cette expression « un enfant nous est né ». Mais deuxièmement, le Fils est donné. Un Fils nous est donné. Il n'est pas devenu le Fils de Dieu. Mais comme Jean 3, 16 dit, « Car Dieu a tant aimé, ou bien mieux traduit, Dieu de cette manière a aimé le monde, qu'il a quoi ? Donné ». Son Fils pour le salut de son peuple. Donc un fils nous est donné. En même temps, nous reconnaissons la main du Saint-Esprit ici, même dans la formulation spécifique de cette déclaration. Donc, déchiffrons cette expression. Premièrement, en parlant des caractéristiques de la personne de Christ, un enfant nous est né. Cette glorieuse prophétie de la naissance du Christ rappelle à Israël que le Messie qui devait venir victorieux devrait être un homme. C'est comme Moïse a dit dans son jour que le Seigneur devait susciter un autre prophète comme lui parmi le peuple. Et il a dit, écoutez-le. Théoriquement, le Messie aurait pu être un ange ou aurait pu être sans l'humanité dans l'imagination de certains. Mais en réalité, aucune de ces options n'aurait qualifié Christ comme le Messie, pour être le Sauveur et le souverain sacrificateur comme Jésus était. L'enfant devait naître. Il devait être un homme qui devait représenter des hommes choisis de Dieu, le Père lui-même, pour leur salut. On ne peut que dire quel incroyable mystère. Il n'y a rien de plus faible ou bien de plus impuissant ou de plus dépendant qu'un enfant. Imaginons celui qui a créé le monde, qui est venu dans ce monde comme un petit bébé depuis la conception dans le sein de Marie. Et théoriquement, le Messie aurait pu venir en tant qu'adulte, créé en tant qu'adulte comme Adam a été créé. Mais tel n'était pas le cas. Ceux pour qui Christ est venu dans le monde, cela nous démontre son humanité pleinement déclarée et manifestée dans sa vie, en commençant comme tout autre être humain débute dans le sein d'une femme, sauf dans le cas de Christ, il n'était pas le descendant, il n'était pas de la semence d'un homme. Autrement, il aurait été un pécheur, mais il était de la postérité de la femme, c'est ce que dit la Bible. Donc, une vierge, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a formé cette sémence dans le sein de Marie. Et dès sa conception, il a pris alors la nature humaine, sauf sans le péché. Il s'est fait sans réputation. C'est comme ça Paul l'a écrit aux Philippiens, prenant la forme d'un serviteur et en venant à la ressemblance des hommes. Philippiens chapitre 2, le verset 7. Je crois que nous avons vu cela la dernière fois. Donc, ça c'est la première caractéristique de sa personne. Il était véritablement un homme. Il est venu dans ce monde, dans la chair. Mais en même temps, deuxièmement, nous voyons ici un fils nous est donné. Cet enfant qui devait naître, le Christ, serait un homme, mais plus qu'un homme. Il était et il est aussi le Fils éternel de Dieu. Vous savez que Dieu est uni, mais on ne doit pas confondre les trois personnes de la divinité. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Donc ici, quand c'est écrit « le Fils » ou « un Fils » nous est donné, il s'agit du Fils de Dieu, éternellement Dieu. Certains imaginent, comme les Juifs, qu'un Messie devait venir, mais ça devait être un serviteur de Dieu. Et pour eux, ils cherchaient un Messie qu'il allait qui allait rétablir le royaume juif encore au pouvoir, mais tel n'était pas le but de la venue du Christ. C'est pourquoi, en fin de compte, ils l'ont rejeté, parce qu'ils cherchaient un Messie qui devait établir un royaume terrestre, mais le Messie qui devait venir n'était pas un simple homme. Ces Juifs n'imaginaient pas qu'il serait Dieu dans la chair. Pour eux, cela était contraire à leur pensée, parce qu'ils imaginaient que tout ce qui comprenait la chair représentait le péché. Donc, ils ne devaient pas prendre la chair. Mais encore, ils ignoraient la puissance de Dieu en envoyant son Fils et dans la conception de son Fils dans la Vierge Marie, qu'il pouvait être en même temps homme, 100%, comme s'il n'était même pas Dieu, mais en même temps Dieu, 100%, comme s'il n'était pas l'homme. Il était véritablement le Dieu-homme. Et donc, nous voyons ce mystère qui est décrit ici. Quelle glorieuse vérité! Nous avions besoin d'un être parfait et infini pour offrir une expiation parfaite et infinie pour nos péchés. Et c'est effectivement ce qu'il a fait. Nous avions besoin d'Emmanuel. N'oublions pas déjà ce nom que le Père a donné à son Fils dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Et ce terme « jeune fille » peut être aussi traduit dans l'original « une vierge deviendra enceinte ». Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc, c'est comme pour insister encore que c'est répété ici par ces paroles inspirées données à Ésaïe. L'enfant a pu naître parce que l'humanité de Jésus avait un point de départ. En tant que fils de Dieu, il est depuis l'éternité. Mais en tant qu'homme, son humanité avait un point de départ. C'est pourquoi nous ne pouvons pas accepter ceux qui disent non, mais puisque Dieu a déjà tout ordonné depuis l'éternité, que voilà, le salut était déjà accompli. Non, il fallait un sacrifice réel qui pouvait verser son sang jusqu'à la mort, et pour cela, c'était nécessaire qu'il ait un corps. Donc voilà le point de départ dans l'histoire de tout ce qui a été déjà annoncé, bien sûr, depuis l'éternité. Et depuis la création du monde, son arrivée en tant qu'homme a été annoncée sous forme de type et de promesses et d'images. Mais la réalité devait être accomplie avec son arrivée dans l'humanité. Il y avait ici un temps où il n'était que la divinité, mais pour sauver des pécheurs que le Père lui a donnés, il a ajouté à sa divinité son humanité. Cela veut dire qu'il n'est pas devenu moins Dieu en devenant un homme. Un fils devait être donné, ça c'est sa divinité, mais il devait ajouter à cette divinité son humanité. Un corps, lui, devait être préparé, comme c'est écrit dans Hébreux chapitre 10 et le verset 5. Et voilà tout un chapitre aussi qui est un très bon commentaire sur Ésaïe 9, la raison pour laquelle Christ devait venir en tant qu'homme. C'est écrit Hébreux 10, verset 5, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, notons, entrant dans le monde, il existait bien avant la création du monde, il existe depuis l'éternité, mais entrant dans le monde en tant qu'homme, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, c'est-à-dire les sacrifices des veaux et des boucs et des agneaux ne pouvaient pas satisfaire à la justice de Dieu à la place des hommes pécheurs. Non, il fallait un homme. Donc, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Toutes les années que ces offrandes étaient immolées, ça ne faisait que couvrir les péchés devant Dieu. Mais il fallait maintenant celui qui devait venir et par son seul sacrifice ôter le péché. C'est pourquoi, c'est répété, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc, il n'a pas cessé d'être Dieu, mais un corps lui a été formé. Tu n'as agréé, verset 6, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. De quel rouleau du livre? Il s'agit là de l'Ancien Testament, écrit sur des parchemins et préservé dans des rouleaux. Il est venu et il a dit, il est question de moi. C'est pourquoi... Lorsque nous lisons la loi, les prophètes, les livres historiques, nous ne faisons que prêcher Christ parce qu'il est question de lui, exactement comme nous sommes en train de voir ici dans Ésaïe 9. Et pourquoi? Il dit pour faire au Dieu ta volonté, c'est-à-dire la volonté de Dieu devait être accomplie à travers celui qui est venu dans la chair. Et véritablement, c'est un mystère. Comment Dieu était en Christ, lui étant un homme, mais en même temps Dieu. C'est le même mot que Paul utilise avec Timothée, dans 1 Timothée chapitre 3 et le verset 16, où il dit « et sans contredit ». Notons, le mystère de la piété, ce mot « piété » veut dire ce qui est agréable à Dieu. Et le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair. Quand ça parle de celui qui a été manifesté en chair, on peut remonter dans le verset 15, où ça parle là de la maison de Dieu et l'église du Dieu vivant. Donc dans le contexte, celui qui a été manifesté en chair n'était autre que le Dieu vivant qui est venu, il était justifié par l'Esprit. L'Esprit de Dieu lui a été donné sans mesure. Il était vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Cela décrit l'œuvre de Christ pour le salut de son peuple. Alors, ce n'est pas une simple répétition. Ici, de la part d'Ésaïe, pour annoncer cet enfant qui est né et un fils qui est donné. C'était pour décrire comment Dieu devait envoyer son fils dans le monde en tant qu'homme, homme parfait, pour accomplir une œuvre parfaite, pour satisfaire à la justice de Dieu son Père. Puisque les sacrifices ne pouvaient pas ôter les péchés, seul Christ pouvait le faire. Alors nous continuons donc en voyant ici l'œuvre de ce Messie qui devait venir, tout en soulignant encore sa personne. On ne peut pas séparer la personne de Christ et son œuvre. Ici, c'est écrit dans Ésaïe 9, 5, la domination reposera sur son épaule. L'image ici, c'est de quelqu'un puissant qui gouverne et qui soutient la domination. Tout ce qui concerne non seulement le monde, mais le peuple qui lui a été donné. La domination reposera sur son épaule. Ici, l'image, c'est d'un berger qui soutient la brebis et qui l'amène jusqu'au bout. Tel est le sauveur dans le salut des pécheurs. Alors, cela est accompli lorsque Christ est venu sur la terre. Le gouvernement, le règne, lui a été donné. Beaucoup lisent ça, imaginant que non, cela n'est pas encore accompli, que c'est pour un temps futur où Christ doit revenir et effectivement dominer le monde. Mais la Bible est claire que la première fois qu'il est venu dans ce monde en tant qu'homme, il est venu non seulement pour sauver son peuple, mais aussi pour régner. Il est en même temps le Sauveur et le Seigneur. Ça, c'est clair dans Hébreux chapitre 1 et le verset 3, si vous regardez là avec moi. Notons, c'est écrit dans le verset 1, « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, c'est ce que nous sommes en train de lire maintenant dans l'Ancien Testament. Dieu, dans ces derniers temps, beaucoup posent la question, est-ce que nous vivons au dernier temps? Les derniers temps ont débuté avec la venue du Christ dans le premier siècle. C'est écrit ça. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, par la révélation de son Fils. Et comment est-ce qu'il a parlé par le Fils? C'est par la révélation de son Fils dans la chair qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, dès Genèse chapitre 1, voilà, un Fils nous est donné. C'est Christ qui a créé le monde selon l'ordre du Père. Quand c'est écrit dans Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa le monde. Dieu, c'est Christ, selon ce que nous lisons ici. Et verset 3, « Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, est soutenant toutes choses par sa parole puissante. » Voilà le point que nous voyons ici, « La domination reposera sur son épaule. » Ce n'est pas ce petit Jésus que les gens prétendent, en qui les gens prétendent croire que oui, c'est notre ami, notre camarade, il veut bien nous aider, mais il faut que nous prenions notre décision de lui laisser le pouvoir. Ça, ce n'est pas le Christ de la Bible. C'est le contraire. C'est écrit « soutenant toutes choses par sa parole puissante ». Même en tant qu'homme, dans la chair, il continuait à soutenir toutes choses jusqu'à la croix. Ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit à Christ, même à la croix. Personne ne lui a ôté la vie, il a dit. Il a donné sa vie de lui-même. Tel est l'ordre qu'il a reçu de son Père, le commandement. Mais voilà le Christ, le souverain. Et c'est ainsi qu'il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà l'image ici de celui qui a le gouvernement qui repose sur son épaule. Les épaules représentent la puissance d'un homme. Et Dieu a posé sur lui en tant que son fils, mais aussi le Dieu-homme a posé sur lui tout le salut de son peuple, mais en même temps, tout jugement en ce qui concerne le monde. C'est entre les mains de celui-ci. Donc c'est pourquoi il est appelé ici le gouverneur du monde. Non seulement celui qui est venu sauver son peuple, mais celui qui dirige toutes choses. Même si le monde ne voit pas nécessairement que tout vient de la main de celui-ci, néanmoins, c'est lui qui gouverne. Et son gouvernement continue et continuera souvent silencieusement, c'est-à-dire ce n'est pas nécessairement apparent aux yeux naturels et pour la plupart d'une manière invisible, les gens ne voyant pas que derrière toute chose, c'est la main de celui qui est venu, qui a donné sa vie, qui est ressuscité, qui est monté au ciel et où il est assis maintenant sur le trône et il règne. Donc continuons maintenant en voyant ces appellations ici dans le verset 5. Et comme je disais, nous devons les considérer en père. Donc le premier père, c'est admirable conseiller. Admirable conseiller. La gloire du Seigneur Jésus-Christ est une gloire d'un merveilleux conseiller. Quand nous lisons ici le mot conseiller, il ne faut pas imaginer que c'est simplement quelqu'un qui est là à côté. Parfois, si on ne sait pas ce qu'il faut faire, alors on cherche du conseil pour avoir leur avis. Non. Ici, le mot conseiller, c'est plutôt dans un sens juridique. C'est dans le sens d'un avocat qui connaît la loi et qui représente des personnes devant le tribunal. Ici, il s'agit d'un conseiller juridique, comme nous avons aujourd'hui un professionnel du droit qui délivre des conseils juridiques aux personnes qui ont besoin. Souvent, un conseiller est nécessaire, particulièrement en matière de succession d'héritage. Nous avons de tels conseillers aujourd'hui qui représentent des individus devant la loi pour assurer une certaine succession d'héritage quand il y a la mort d'un parent. Alors, c'est quelqu'un qui rédige des testaments et fournit des services de recouvrement. Vous ne voyez pas comment cela décrit le Seigneur Jésus-Christ, combien nous avons besoin de lui comme véritable conseiller. Et non seulement véritable conseiller, mais comme l'expression est donnée ici, admirable conseiller. Ce n'est pas un faux conseiller que ce monde a été ruiné. Quand nous imaginons la place d'Adam, c'est par lui que le péché est entré dans le monde. Et Adam lui-même a suivi le conseil d'un mauvais conseiller, Satan lui-même. C'est pourquoi il s'est masqué dans le serpent. Et d'abord conseiller, il s'est établi comme le conseil juridique de la femme avec une extrême ruse de prendre pour elle du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Pourtant, elle devait, comme Adam, se satisfaire avec l'arbre de vie qui représente Christ. Mais n'est-ce pas ce mauvais conseil qui a poussé notre mère à se rebeller contre son Créateur? Mais la Bible dit que ce n'est pas un seul homme que le péché est entré dans le monde. C'est parce qu'Adam a reçu de Dieu d'abord cet ordre. Et il était là avec Ève lorsqu'elle a suivi le conseil de Satan. Donc, c'est lui qui était le représentant. Et c'est à cause de cela que le monde est maintenant tombé dans la dépravation totale, la ruine totale. Mais nous avons un meilleur conseiller. Ici, un admirable conseiller dans la personne du Fils de Dieu. C'est lui qui a reçu conseil auprès de son Père et avec le Saint-Esprit pour venir et accomplir le salut des pécheurs que le Père lui a donné. Dans Zacharie et le chapitre 6 et le verset 3, La meilleure façon de trouver Zacharie, c'est de commencer à Matthieu et puis retourner en arrière quelques livres. Et voilà, avant Malachie, vous allez trouver Zacharie. Et dans Zacharie, chapitre 6 et le verset 3, nous voyons ici que le haut conseil de la divinité a apporté le salut du peuple de Dieu. C'est écrit dans Zacharie 6, le verset 13, il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et quoi? Une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Alors, ce mot, une parfaite union, traduit ici en français, en effet, dans l'hébreu, c'est le mot le conseil de paix sera entre eux deux. Entre quels deux? Quand c'est écrit entre l'un et l'autre, c'est entre le Fils de Dieu et son Père et le Saint-Esprit. C'est voilà la divinité, ce conseil éternel qui a ordonné la paix du peuple et a désigné, nous parlons des choses éternelles, mais logiquement, a ordonné à ce que le Fils vienne et qu'il souffre, que c'est lui qui devait représenter la divinité comme le substitut et porter les péchés de son peuple. Voilà le sens aussi d'ayant le gouvernement sur ses épaules, porter le poids du péché de son peuple et être puni à la place de ce peuple que Dieu a ordonné au salut et que finalement le Père devait accepter, agréer la substitution du Fils et donc donner à ce peuple une liberté. Christ lui-même ayant payé les dettes. Voilà encore le sens d'avoir la domination reposée sur son épaule comme admirable conseiller. Vous voyez? Et cela signifie les dettes étant payées. C'était le conseil éternel de Dieu qui a ordonné ainsi. Dans Actes chapitre 2 et le verset 23. Ça, c'est le langage que Pierre a utilisé le jour de Pentecôte, lorsqu'il a expliqué pourquoi l'Esprit a été donné de la manière que ça a été donné. Il indique, c'est parce que Christ est venu, comme c'est écrit dans Actes 2, 22, homme israélite, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Notons, cet homme, il était véritablement homme, mais en même temps Dieu. Et c'est écrit, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Le mot dessein arrêté, c'est ce mot conseiller. Au conseil, c'est le synonyme du mot conseil, c'est la volonté absolue, souveraine de Dieu. Et c'est par cette volonté, ce conseil, ce dessein arrêté, que vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Si ce n'était pas que Dieu avait ordonné la mort de son Fils comme le substitut de son peuple, personne ne pouvait lui ôter la vie. Et c'est pourquoi nous lisons dans Actes 4 et le verset 28, concernant ce qu'ils ont pu faire contre Christ. Nous lisons dans Actes 4, 27, en effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Voilà le mot Messie, le oint de Dieu. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël, pour faire quoi? Verset 28. Pour faire tout ce que ta main et quoi? Ton conseil avait arrêté d'avance. Là, c'est clairement traduit conseil. Donc, c'est dans ce sens, revenant dans Ésaïe 9 et le verset 5, qu'il est appelé l'admirable conseiller. Cela veut dire celui, le mot admirable, ça appartient à Dieu seul. C'est une caractéristique de Dieu seul. Mais il est l'admirable conseiller. Et puis, deuxièmement, il est appelé là le Dieu puissant. Pas seulement Dieu, mais Dieu puissant. Dieu signifie le souverain, le juge, le suprême juge, mais ajouté à cela puissant. Voilà qui il est. Il est venu dans ce monde pour accomplir le salut du peuple que le Père lui a donné. Et il l'a fait effectivement. Il n'a échoué en rien. C'est pourquoi nous devons et nous pouvons nous confier en lui, parce qu'il est le Dieu puissant. Il a effectivement pris sur lui la charge de son peuple et il a satisfait à toutes les exigences de la loi, étant le Dieu puissant. Pas seulement un homme, mais le Dieu puissant pour l'accomplissement de ce salut. Quelle différence par comparaison que nous lisons ici et les caractéristiques d'un soi-disant Jésus qui est prêché aujourd'hui, qui veut bien faire accomplir le salut, mais il ne peut pas tant que l'homme ne lui donne la permission. Ça, ce n'est pas le Dieu puissant. Et ce n'est pas un Dieu puissant qui a donné sa vie et puis, en fin de compte, d'autres finissent par être envoyés à l'enfer parce qu'ils n'ont pas accepté ce Jésus-là. Non. Tout ce que le Père lui a donné, il par son esprit, attirera à Christ et il n'y aura aucun qui peut se perdre, puisque ce pour qui Christ est venu, il est le Dieu puissant de pouvoir non seulement les sauver, mais les garder. Et puis, le troisième Père que nous voyons ici, dans le verset 5, il est appelé le Père éternel. Il ne faut pas confondre cela pour imaginer que donc il n'y a pas de différence entre le Fils et le Père. Non, il a son Père qui est le Père éternel, mais Christ lui-même, ayant reçu de son Père un peuple qu'il devait sauver, alors il est lui-même appelé ici le Père de ce peuple-là. Nous avons déjà vu cela prophétisé dans Ésaïe chapitre 8 et répété encore dans Hébreux 2 et le verset 13. C'est pourquoi nous savons que cela se réfère à Christ, le Père éternel. Il dit ici dans Hébreux chapitre 8 et le verset 18, « Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. » Et dans Hébreux chapitre 2, le verset 13, ce passage est cité là comme se référant à Christ lui-même, qu'après sa mort et sa résurrection, disait de ce peuple que le Père lui a donné. Verset 13, Hébreux 2, et encore, je me confierai en toi. C'est comme ça que nous sommes sauvés, nous qui sommes le peuple de Dieu. En nous, c'est parce que Christ s'est confié en son Père. C'est par sa fidélité que nous sommes acceptés et nous sommes sauvés. Mais il dit, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. C'est pourquoi le salut est certain entre les mains de Christ, parce que c'est lui qui assure le salut de ses enfants en tant que Père éternel. Et puis, le quatrième Père que nous voyons là dans le verset 5 concernant Christ, il est appelé Prince de la paix. Et nous savons comment il est prince de la paix. Il a régné sur la mort, il a régné sur la loi et la justice, il a régné sur le péché pour assurer la paix entre les pécheurs que le Père lui a donnés et le Père. C'est pourquoi il est appelé le prince de la paix, pas seulement quelqu'un qui montre comment l'homme peut entrer en paix avec Dieu. Non, mais il est lui-même le prince de la paix. Dans Romains chapitre 5 et le verset 1, comment est-ce que Christ est le prince de la paix? C'est lui qui, par sa mort, dans Romains 4, verset 25, il a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour ou bien à cause de notre justification. Cela démontre qu'à la résurrection de Christ, la justification était accomplie. Il fallait que Christ meure et sa mort étant une satisfaction parfaite devant le Père, donc Dieu a alors justifié une fois pour toutes tout son peuple, depuis le début du temps jusqu'à la fin. C'est pourquoi Romains 5, 1 commence, étant donc justifié. Et là, les éditeurs qui ont traduit ce texte en français, ils ont mis la virgule après la foi, mais en fait, il n'y avait pas de ponctuation dans l'original. Donc, on doit plutôt mettre la ponctuation après justifié, étant donc justifié, virgule, par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a établi la paix, étant le prince de paix, de la paix, mais maintenant nous entrons nous-mêmes dans notre expérience, dans cette paix, par la foi. La foi, c'est la révélation de Christ dans le cœur. Et c'est ainsi que cette paix est réalisé dans nos cœurs, mais c'est réalisé dans le cœur parce que ça a été réalisé bien avant à la croix. Alors, nous allons devoir nous arrêter là et reprendre la prochaine fois à partir du verset 6, où ça décrit les caractéristiques du règne de Christ. Il est venu non seulement comme sauveur, mais il est venu comme Seigneur et il règne aujourd'hui pour assurer que tout s'accomplit exactement comme le Père l'ordonne. Alors que la gloire du Christ soit reconnue par nous qui sommes ses enfants. Amen.